Charlie a quitté l'Algérie à l'âge de 3 ans. Il est aujourd'hui travailleur social à la Rennerie, au cœur du Mirail, en banlieue toulousaine. Il nous raconte son parcours avant de nous faire visiter ce quartier qu'il a vu se construire.
Je m'appelle Monsieur Mustapha Ben Morkat, plus connu sous le surnom de Charlie. Je suis arrivé en France en 1958. J'ai eu par bonheur être arrivé en avion, ce qui était fantastique à l'âge de 4 ans. On était tout ébahis. Bon, nous sommes arrivés en France par des circonstances vraiment fantastiques. Mes parents sont venus pour passer des vacances. Et ils ne se sont plus à Toulouse, ils ne se sont plus, disons... Surtout qu'en 15 jours, il n'a pas pris de vacances, il a plutôt travaillé. Et 15 jours où il a travaillé en France par rapport en Algérie, je ne sais pas, l'espace de mois, ça devait être ben, fantastique par rapport à ce qu'il devait gagner dans son pays. Et puisqu'il nous a payé l'avion, il nous a fait venir en France. Et puis, il pensait rester peu de temps. Et les années faisant, ses enfants naissaient, grandissaient. Il voulait qu'ils aient une super éducation et qu'ils travaillent bien à l'école. Et ça s'est enchaîné. Dans ces années-là, c'était vraiment la reconstruction du pays. Après la guerre, on a bien dû mettre 15-20 ans pour reconstruire le pays. Et je pense qu'on avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre à cette époque-là. Ils trouvaient du travail facilement. Le bas de l'échelle, si on pourrait dire, à l'heure actuelle, manœuvre. Un homme à tout faire, si on peut dire. Surtout dans le terrassement. C'était plutôt les patrons qui venaient chercher les ouvriers que les ouvriers qui allaient chercher du travail à cette époque. Je pense que les différences de coûts de travail devaient être énormes, à mon avis. Mais c'est surtout la façon, comme ils disaient eux, la métropole, on était mieux payé, on était un peu plus considéré qu'à son époque où il avait vécu, on va dire, sur domination coloniale. Dire. Mes souvenirs sont très vagues parce qu'on s'en rappelle pas, parce que nous quand on est venu là, disons, je parlais arabe, mais quand on arrivait en France ici, il fallait arriver à se défendre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, et tout le monde parlait 80% français, et puis quand vous arrivez à l'école, vous faisiez des fautes, on vous tapait sur les doigts, on mettait à genoux des punitions, des sévices existaient et étaient reconnus. Alors on faisait des efforts sur eux-mêmes pour... plus vite apprendre le français, on oubliait notre langue maternelle. Nous, on était à côté d'Alger, on était à El Harach, à Maison Carrée. Alors, des souvenirs de l'autre côté de la Méditerranée, j'en ai pas. Des souvenirs du bon de ce côté de la Méditerranée où je suis, oui. Puisque j'y ai vécu 3 ans et demi. Je suis venu en 58. Alors, c'était des clairs, mais même pas de souvenirs. Tous mes souvenirs se... sont à Toulouse. Moi, je l'appelle ma ville natale. On arrive à 3 ans, on est à la maternelle. Le reste de l'autre côté, rien du tout. Les camarades étaient plus ou moins tous, avaient des pères ouvriers. On était tous dans... les gens s'entraidaient. On se passait des verres d'huile, du sel. Voilà ce que je me souviens. Le voisin tapait pour un bout de pain. Les parents d'un n'étaient pas... Il allait goûter chez les autres. On gardait les enfants des autres sans demander de rémunération. Ça ne parlait pas d'argent. Tout le monde était vraiment loti à la même enseigne. Bon, on voyait tous les papas partir le matin travailler. Bon, pas partir. On les voyait plutôt souvent revenir que partir, puisqu'ils partaient très tôt. Et tout le monde, plus ou moins, allait, on va dire, dans les 80-85% que j'ai fréquenté, ben, c'est les mamans qui allaient récupérer leurs gamins à l'école, qui les amenaient, qui les faisaient manger, qui les ramenaient. Alors, on a toujours eu l'habitude de voir les papas travailler dans les quartiers ouvriers où j'habitais. C'est rare que, dans le foyer, le couple entier travaillait. C'était toujours l'homme, à 90%. Des familles peu nombreuses à l'époque où nous, on est arrivé en France, franchement, j'en ai pas connu beaucoup. Dans le quartier où je vivais. Puis après, je suis venu au Mirail, où c'était encore la même condition. Alors, c'est vrai que j'ai connu les plus petites familles. La plus petite, on va dire, elle en avait 3-4. Puis après, c'était tous des 6-7 enfants, 5-6-7. Thank you. Rennery Service s'est créé dans les années 91. Je suis un des plus anciens. Voilà, si on peut dire le terme exact. Alors, nous, on travaille dans un domaine bien défini. C'est-à-dire, on a trois gros sites, trois gros chantiers. Nous avons un chantier de nettoyage qui se passe sur les voiries, les espaces publics, c'est-à-dire les dalles et tout, de la propreté, le travail de cantonnier. Après, nous avons un autre site qui est du nettoyage industriel, qui se passe sur trois stations de métro, qui est très pointu de savoir se servir des machines, savoir laver des vitres, de savoir passer plus ou moins certaines machines, de savoir faire du lavage au sol, du décapage. Et puis après, on va dire un troisième travail, plus ou moins minutieux, qui est le nettoyage de bureau. Et ben, je suis arrivé à Rennery Service, si on peut dire comme ceci, le plus bas de l'échelle. Après, on va dire, un divorce qui s'est très très mal passé, après une rupture que je n'ai pas pu supporter. J'ai arrêté de travailler, je suis parti en vrille, si on peut s'exprimer comme ceci. J'étais au plus bas de l'échelle. Heureusement que j'avais une famille soudée qui me soutenait, mais bon, j'arrivais pas, j'ai pas passé le cap. Je suis passé en tant que CES pendant 2 ans, tout en essayant de me reconstruire, de retrouver les vraies valeurs du travail, l'envie de continuer. Puis j'ai continué par un autre contrat qui s'appelait le CEC et qui m'a amené à me reconstruire doucement. Et dans la structure, certaines personnes m'ont fait confiance, m'ont fait redécouvrir les compétences que j'avais acquis, que j'avais oublié, m'ont fait remettre tout ça en valeur. Et petit à petit, bon, je suis arrivé à me reconstruire. Et tout ce que j'ai appris maintenant, je voudrais le retransmettre à ces jeunes parce que je suis passé par là. Et je sais que c'est dur, c'est douloureux. Et j'essaie de redonner tout ce qu'on a, toute la chance qu'on m'a donnée. Et je veux essayer de la retransmettre et de la mettre. C'est pour ça que je me mets plus à cœur sûrement que des fois je devrais. Et ben, ce que je fais, j'encadre les jeunes. Je leur apprends déjà à travailler, à essayer de respecter autrui, à essayer d'arriver à l'heure, c'est déjà pas évident, d'être généreux, de savoir partager avec les autres, de savoir travailler en équipe et de leur faire découvrir leurs compétences, qu'ils sachent les améliorer et les mettre en valeur par rapport à autrui et par rapport aux autres personnes qui les entourent. Pour arriver au point où ils seront autonomes. Et quand j'aurai réussi au point qu'ils seront autonomes, c'est des personnes, je pense, qui seront capables de trouver un travail ailleurs. Mais tant qu'ils n'auront pas trouvé là, parce que là, ils vivent en autarcie, je vais dire, par petits groupes, et ils se protègent les uns les autres, et il faut leur apprendre à se détacher de ce petit groupe pour aller voler de leurs propres ailes. Voilà, si j'en veux dire, je leur mets les pieds à l'étrier pour essayer de les amener à être capables à voler de leurs propres ailes et d'aller chercher du travail, de savoir s'exprimer, parce qu'ils s'expriment, mais je veux dire qu'ils s'expriment avec leur cœur et avec leur rancœur, des fois, de savoir essayer de canaliser ça. Je pense que ça se base sur la confiance, et puis c'est un métier où je pense que si on n'aime pas les gens, il faut mieux qu'on s'arrête de faire ça dans le social. Si on vient pour chercher un salaire, je pense qu'on s'est trompé d'endroit et de métier, parce que c'est un métier tout jeune et très ancien. Parce que quand on voit que c'était à l'époque plutôt du bénévolat, des gens faisaient du bénévolat, quand on lit des histoires et qu'on voit le parcours de l'abbé Pierre, ce qu'il a pu faire et avec d'autres personnes qui l'ont soutenu, qui l'ont amené, c'est de la générosité. Il faut donner plus que ce qu'on reçoit. Et je ne sais pas si tout le monde arrive ou sait le faire. Peut-être que des fois, je manque moi-même à ce devoir-là. Je pense que c'est un métier qu'il faut savoir donner et perdre du temps. On pense qu'on perd du temps, mais on n'en perd pas. Je veux dire, il faut donner plus, ça c'est sûr, donner plus que ce qu'on reçoit. Et leur consacrer beaucoup, beaucoup plus de temps, parce que je pense que c'est des personnes, je l'ai vécu, qui sont allés bas, ils ont besoin de beaucoup d'amour pour pouvoir repartir. Les jeunes, les moins jeunes, tous ceux qui sont, ce parcours qui a été enchevêtré, ou qu'ils étaient dans le train et qu'on les a éjectés du train et qu'ils ont mis du temps à se reconstruire. Je parle aussi bien des jeunes que c'est le premier travail, des gens qui sont toxicomaniques et qui sont au fond du trou, ou alors des personnes qui sont au RMI ou qui sont en chômage de longue durée, qui n'ont plus rien appris à travailler, qui n'ont plus le goût et qui s'étaient détachés de la vie, qui s'étaient fait un monde à eux-mêmes ensemble. C'est des jeunes qui sont en insertion. Pour avoir un passé lourd et chargé, je pense que les pauvres, ils ont un passé lourd et chargé. Ils ont de tout. Ils peuvent avoir les trois, c'est-à-dire échec scolaire, prison, toxicomanie. Et pour un jeune qui a 20 ans, je pense que c'est très très lourd de gérer ces trois choses à la fois. Il y en a qui n'en ont qu'une, il y en a qui en ont deux. Et il faut jouer avec tout ça. Et c'est qui est pas évident. Et puis après, on a des personnes, puisqu'à l'heure actuelle, il faut protéger nos seniors. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits qui protègent ces seniors. On les laisse beaucoup en dehors. Et là, c'est des personnes qui sont parties au bac, qui avaient des compétences. Il faut rien que leur remontrer leurs compétences et tout ça. Parce qu'après l'assiduité et tout ça, ils en ont moins que les jeunes. Mais je veux dire, ils ont été démotivés. Une personne démotivée, pour lui redonner confiance, c'est pas évident. À l'époque, je me souviens, moi, jeune, les seniors, on les gardait pour qu'ils nous donnaient leur savoir de travail, qu'ils nous l'exprimaient, parce que même on avait des seniors qui ne savaient pas lire et écrire, mais rien que la connaissance qu'ils avaient dans la tête, qu'ils amenaient à un savoir, comme certains artisans, et on se demandait comment ils travaillaient, ils n'avaient ni de plan ni rien, mais ils avaient une façon de faire qui était fantastique, et ils amenaient ce savoir. On dirait que maintenant, on n'en a plus besoin dans les grosses entreprises, ce qui me semble paradoxal. Mais les jeunes, au départ, leur comportement, ils n'aiment pas trop obéir, ils n'ont jamais travaillé l'assiduité, leur manque de motivation, parce que des fois on se demande s'ils ne viennent pas par obligation, c'est déjà pas mal déjà ça. Déjà avoir réussi ce challenge est déjà pas trop mal. En arrivant à ceci, c'est pour ça que des fois, plus ou moins, je suis pas d'accord ou pas trop avec notre direction sur le cas du retard, voilà, parce que déjà pour moi, qu'ils arrivent à se lever, même s'ils arrivent en retard, c'est quelque chose de magnifique parce qu'on leur apprend à se lever. Et puis dans un deuxième temps, on essaiera d'arriver, qu'ils arrivent à l'heure. Et de là, qu'ils aient plus d'assiduité, qu'ils manquent moins. Bon, je le vois comme ça. Bon, après, il y a des impératifs de production. On a des offres de marché, on est obligé de répondre à l'attente quand même de nos donneurs d'ordre. Et tout ça à la fois, c'est des fois difficile, hein. Mais on s'y tient parce que je pense qu'on aime notre métier. Le peu de jeunes qu'on a la chance après, quand on sait qu'ils ont trouvé un CDI, c'est-à-dire qu'ils se sont construits, qu'ils ont fait leur famille, et c'est ça notre joie. Même qu'il n'y ait pas beaucoup de pourcentage, mais s'il y en a toujours deux ou trois, c'est formidable. On se dit, on a œuvré à quelque chose. Presque si on dit on a œuvré à fonder une famille, c'est formidable. Voilà, on voit qu'il se reconstruit, qu'il est content, qu'il a repris. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent, comme tout le monde, s'établir, construire, fonder une famille, avoir des enfants. C'est, je crois, le bonheur et de tout le monde. À une époque, si je me souviens plus qui c'est qui l'avait dit, on devient un homme quand on en fait un enfant et qu'on en plantait un arbre pour ses enfants et ses petits-enfants. Je me souviens plus qui l'avait dit, j'avais trouvé cette image magnifique. Je travaille à Rennerie Service depuis 16 ans et j'habite le quartier depuis, que je ne me trompe pas, 38 ans. Du moins, je suis sur le quartier. Nous trouvons au cœur du quartier de la Rennerie. Voilà, une banlieue toulousaine. Et voilà, son historique, je pense que c'est dans les années, fin années 60, c'est-à-dire début 70, que le projet a été viable. Il y a des bâtiments qui datent des années 70, il y en a un peu plus. Et on nous a fait une ligne de métro pour nous rapprocher plus près du centre-ville, mais je ne sais pas si le centre-ville veut de ces émigrés. Voilà notre place à Bâle, notre cœur de notre petit village, si on pourrait dire ça. Là où il y a les marchés tous les jeudis, où toutes les grandes manifestations du quartier se passent.
1960, la France fait face à la crise du logement. La forte croissance démographique de l'après-guerre, l'exode rural et l'arrivée des rapatriés d'Afrique du Nord entraînent en effet une véritable pénurie d'appartements. L'expansion économique bat son plein, il faut construire, construire, construire. À Toulouse, comme ailleurs, on se penche sur la question. Le maire socialiste de l'époque, Louis Bazerque, décide alors de créer une ZUP, zone à urbaniser en priorité, dans un quartier dont le nom deviendra célèbre, le Mirail.
Les cités n'étaient pas faites comme ça. À l'époque que je me souviens, c'était toutes des petites cités où les gens se connaissaient, pratiquement toutes les familles se connaissaient. Et tout le monde se connaissait pratiquement par son prénom ou par son nom de famille, puisqu'on disait monsieur, on n'appelait pas le père d'un ami par son prénom à cette époque-là. C'était des ouvriers qui venaient de... On avait de toutes origines et de toutes couleurs, comme on dit, nous dirions, mais à grosse majorité européenne. Portugais, espagnol, italien, polonais, français, énormément, bien sûr. Au départ, c'était bon pour... on va dire presque comme une cité ouvrière, comme sur les grandes entreprises où ça faisait un genre de petit village comme ça, les gens se connaissaient, il y avait des couples, il y avait une mixité, mais c'était le grand essor que le début où le couple commençait à travailler et les gens ont commencé à... dans le raisonnable, investir dans la pierre, se repartir, avoir envie d'espace parce qu'ils travaillaient tous les deux, retrouver leur intimité. Alors ça faisait que des petits trucs de passage et voilà, et de là on a commencé à mettre, puisque c'était des appartements spacieux faits pour des familles nombreuses, et les familles nombreuses étaient pratiquement que des familles d'émigrés à ce moment-là. Les autres familles ont commencé, disons, en France à compter que deux enfants, un et demi, un 36, je sais pas comment ils font un 36, mais bon, des trucs comme ça, et ils allaient plutôt construire et partir à l'extérieur, et ça fait qu'ils en ont fait une cité d'ouvrières, ils en ont fait une cité d'émigrés avec un taux de chômage énorme, puisque le travail s'en allait par rapport aux gens qui venaient rentrer.
Autre problème qui prend des proportions considérables au Mirail, le racisme. En effet, si le quartier, au début, n'était habité que par une population française, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Comme partout, la population française émigre vers la maison individuelle, alors que les populations immigrées sont concentrées dans certains immeubles, créant ainsi de véritables ghettos. Le racisme au Mirail existe, et sous la forme la plus primaire.
Je me suis vu aller chercher des places avec des jeunes. Moi, je m'occupe principalement d'émigrés et refuser catégoriquement, même si la place était disponible, parce que c'était un émigré.
Là, on dirait qu'on va passer une frontière. Nous allons du côté privé, nous allons laisser le côté HLM, nous allons passer du côté privé. Comme on disait ici à l'époque, les bourges, le côté des bourges. On dirait passer une I et de l'autre côté, la banlieue. Ah, cette frontière imaginaire, on va dire, ça fait 20 ans. Elle doit être vraiment bien mise en place. Les grands investisseurs sont venus, se sont mis, eux, au bord du lac. Alors tout ce qui est au bord du lac, c'est du privé. Tout ce qui est éloigné, c'est de l'HLM. Voilà, c'est-à-dire encore un moyen, qu'on pense ou qu'on ne pense pas, mais de vraiment détacher les gens. Dire, bon, les émigrés, on les met un peu plus loin. Et ceux qui ont de l'argent, les bons Français, on les met là.
Certains immeubles sont plus que sales. Alors, à qui la faute ? S'il est vrai que les habitants ont une part de responsabilité dans cet état de fait, les véritables responsables restent les trois sociétés d'HLM. L'office public, l'office des chalets et la société languedocienne. Leur politique est simple, c'est celle de la carotte et du bâton. Ceux qui payent régulièrement leur loyer sont mis dans des immeubles bien entretenus, les autres sont entassés dans les bâtiments délabrés comme celui de Varèse.
Quand vous allez à côté, c'est impeccable, c'est propre, il n'y a pas de saleté comme ça, mais vous venez ici... Ça sent mauvais, ben, vous ne pouvez pas rester.
Il y a des gens qui disent que c'est la faute des habitants de l'immeuble, c'est vrai ?
La faute des habitants, mais quand même, il y a un gérant.
Ouh, là, on est au château de la Reinerie. Je pense que c'est de là où a pris le nom du quartier entier de la Reinerie. Voilà, sur son emblème. Je sais qu'il était en vente et que la mairie s'était mis acquéreur, mais maintenant, avec les investisseurs, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. À un moment donné, il me semble qu'ils avaient fait des petits appartements, quoique possible qu'il y ait encore des appartements en location dedans. Je ne pense qu'il n'y a plus de châtelain à l'heure actuelle.
Cette rue qui prend la forme d'une dalle de béton plus ou moins large, surélevée par rapport au sol pour que les autos viennent se garer au-dessous, cette dalle qui forme le lien entre les diverses activités de la cité, va être placé au milieu de la nature. Voici comment se présente actuellement le terrain du Mirail où sera construit le nouveau Toulouse. Rien n'y sera détruit. Les châteaux resteront, comme les bois ou la petite rivière. La dalle supportant les bâtiments ouverts sur la nature fera s'avancer la ville nouvelle dans la verdure. Il n'y aura pas besoin de créer après coup des espaces verts. Ils sont déjà là et les architectes veulent les utiliser comme matériaux de la future cité.
ghettoiser les gens, on ne sait pas si on ne leur a pas mis tout à côté dans le quartier pour pas qu'ils puissent aller au centre ou aller s'évader. Nous ont amené la CAF, la maison de justice, la NPE, tout ça. C'est vrai que ça amène, hein, mais ça empêche les gens de sortir de leur quartier, c'est bien dommage. Bon, les écoles maternelles, qu'on croit plutôt des petites prisons pour enfants, regardez la hauteur des barreaux et tout. Sur des quartiers, pour une école maternelle, je ne pense pas que c'est les gamins qui vont s'échapper à cette hauteur.
En fait, tout le projet reposait sur un double pari. Un, diminuer au maximum les déplacements des habitants en réunissant sur place logement, services et travail. Deux, réussir à recréer la communication entre les gens grâce notamment aux voies piétonnes, aux coursives et aux équipements sociaux. Malheureusement, aujourd'hui, en 1982, ce double pari est un échec. Le Mirail, même s'il reste un exemple dans les écoles d'architecture, est devenu une cité dortoir de 40 000 habitants où la misère progresse de jour en jour.
Ils sont désœuvrés. Bon, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, ouais, ils sont désœuvrés, ils font des conneries, ils font ceci, cela, mais c'est pas difficile. Hein. C'est, on avait de la chance, il y avait du travail, mais je pense que pour toute personne équilibrée, c'est comme les 3-8. Hein. Il faut 8 heures de loisirs, 8 heures de repos, 8 heures de travail. Et la personne, elle arrive, elle sera fatiguée, elle s'occupera de chez elle et elle n'aura pas le temps de sortir ou de faire des conneries. Et là, en ce moment, les jeunes, ils ont 12 heures, ils ont 24 heures de loisirs. Et 24 heures de loisirs. Et si tu n'as pas de point de loisirs pour faire, tu t'emmerdes, si tu t'emmerdes, tu ne sais pas ce que tu fais, tu es désœuvré, tu fais n'importe quoi. C'est plutôt eux qui sont à plaindre à ce moment-là que nous.
Mais la misère au Mirail, vous êtes sur le terrain, vous êtes un homme de terrain, la misère c'est quoi ? Quel visage ça a ?
La misère, c'est la misère de façon traditionnelle, c'est-à-dire c'est les difficultés financières d'abord, oui. Et donc des problèmes alimentaires, donc des problèmes d'insalubrité dans les appartements qui sont pourtant dans les immeubles récents. Et puis c'est aussi la misère morale, la misère culturelle hein, qui est particulièrement forte.
Et pour cause, la plupart des habitants du Mirail sont des déracinés. Qu'ils viennent d'Algérie ou de l'Ariège, le problème est le même. Personne ne peut se retrouver dans le béton.
Je pense pas que c'est dans le quartier qu'il faut quelque chose. C'est au point de vue de la société. Je pense que dans le quartier, on peut faire ce qu'on veut. Il y aura toujours des gens désœuvrés. Ou alors qu'on ait la chance de trouver du travail à tous ces jeunes où il y a 40% de chômage à l'heure actuelle. Et le quartier reviendra. C'est de trouver du travail aux gens, je pense, à l'heure actuelle. On peut mettre n'importe quoi, ça résoudra rien. On peut mettre des activités, ils vont s'amuser, mais ils vont s'ennuyer à force de faire la même activité ou de faire ça. Ça devient lassant et fatigant. Il faut donner du travail, il faut trouver un moyen pour donner du travail aux gens, c'est tout. De les reconsidérer, qu'ils se reconsidèrent eux-mêmes comme un être humain. Quelqu'un qui est laissé là, il se considère plus comme un être humain. Il pense que la société n'a plus besoin de lui. S'il pense que la société n'a plus besoin de lui, et lui se dit, j'ai plus besoin de la société. Elle m'emmerde, elle me met de l'autre côté, mais moi je vais l'emmerder de l'autre côté. Je sais pas, j'extrapole peut-être, mais je pense qu'il n'y a que ça. C'est pas mettant de n'importe quoi que ça sert à rien. Trouvons une méthode et trouvons du boulot, Jean. Et déjà, essayons que les usines qui veulent fermer, de mettre une pression pour pas qu'elles ferment déjà. Ça serait un bien que le peu qui ont déjà le travail, qu'on puisse leur conserver.
Le portrait que vous venez d'écouter fait partie du projet Mémoire d'ouvriers immigrés en Midi-Pyrénées. Le collectif Alter Image travaille depuis 2007 à la publication d'un livre et d'un CD prévu pour octobre 2010.